Les élections se font sur place.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et son répondeur.
Lecture de la Bible. La Genèse, chapitre 2, article 25. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Alors, reprenons tous en cœur. À poil copé, à poil copé, à poil. À poil copé, à poil copé, à poil.
Alors c'est à propos de l'émission d'hier. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les raisons que le journaliste que vous avez interviewé donnait pour refuser de cautionner par ses reportages les mensonges politiques du gouvernement de l'époque. En renversant la situation, on peut se demander... Ceux qui cautionnent aujourd'hui, ceux qui acceptent. Lui, il a refusé, mais il y en a tellement qui acceptent. Et ça pose la question de ceux qui acceptent de cautionner le mensonge politique. Bonne journée.
Si Hollande n'a pas vu l'Amérique pauvre, il ne voit plus, et le PS ne voit plus, la France pauvre, la France qui vit mal. 14% de la population vit avec moins de 977 euros. Par mois. 50% des salariés gagnent moins de 1630 euros par mois. Pour devenir propriétaire en France, il faut gagner au minimum 4000 euros par mois. Donc on voit bien que on a de plus en plus un écart croissant énorme qui se crée, que la classe moyenne s'effondre, que le PS n'est plus de gauche et ne fait rien. Il est aux ordres du MEDEF. Regardez bien Gattaz. Que faire? Il y a un homme célèbre qui a posé cette question, et bon, voilà. Allez, salut, c'était Christophe de Poitiers.
Salut Daniel, salut AMG, disons juste au sujet de la grève des chauffeurs de taxi, là. Bon, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de leurs revendications. Bon, par contre, ce que j'ai compris, c'est que leur plaque leur coûtait 200 000 euros, et puis que maintenant, le moindre Pékin va pouvoir venir avec une voiture et leur piquer le boulot. Ah, écoute, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils défendent leur beefsteak. Ils parlent de concurrence déloyale, et là je peux pas leur donner tort, hein, mais quand je vois nous autres transporteurs routiers de marchandises, je pense qu'il y a déjà bien longtemps qu'on aurait dû foutre le bordel et manifester contre cette concurrence déloyale des pays de l'Est. Hein. Enfin, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné si on avait uni nos forces. Hein. Ah, je te dis pas le caillon, quoi. Ah, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, quoi. Hein. Allez, à bon entendeur, salut.
Si l'UMP voulait vraiment protéger les enfants, ce ne sont pas des livres pour enfants qu'ils voudraient interdire. Ce sont les pubs qui leur sont destinés pour les barres chocolatées, etc. et qui les rendent bien souvent obèses avant l'âge de 12 ans. Hein ? Pardon ? Qui a dit lobby agroalimentaire ? C'est quoi ça, lobby agroalimentaire ?
Salut, c'est Brigitte, ex-salariée de chez Samsonite. Mes camarades et moi... Étant licencié en 2007 suite à un rachat frauduleux de notre usine qui a été programmé par le fonds d'investissement Bain Capital à New York, nous avons attaqué en justice les responsables Bain Capital. Une audience a eu lieu l'an dernier et maintenant nous allons en appel au tribunal de Boston. Pour multiplier nos chances de gagner, on a décidé de partir tous ensemble. La dernière fois, c'est grâce à vous, les auditeurs de Là-bas si j'y suis, qu'on a pu partir, vos dons étant de 4000 euros. Nous devons partir pour l'audience qui aura lieu le 5 mars. Donc nous partirons le 4 mars ensemble si notre budget est favorable. C'est pour cela qu'à nouveau, je m'adresse à vous pour nous aider dans notre lutte. Vous pouvez envoyer vos dons à l'ordre de AC Samsonite, adresse AC Samsonite, 5 rue de la Mairie à Rouvroy, 62 320. En vous remerciant d'avance, au revoir.
Voilà, vous avez compris ce message. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire de ces ouvrières, des ex-salariés de chez Samsonite qui se sont fait virer d'une manière comme des malpropres de leur entreprise, mais qui se battent et qui attaquent le responsable de ces expulsions, de ce plan social, c'est-à-dire Ben Capital. Et l'audience a eu lieu l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, et à Boston, aux États-Unis, Massachusetts. Et là, à nouveau, il y a une audience à Boston. Et les ex-salariés, toutes ces dames, il y a beaucoup de dames, il y a des messieurs aussi, vont à Boston. Et nous les soutenons. Et nous vous demandons de les soutenir comme la fois dernière, pour qu'elles puissent toutes aller à Boston dans l'espoir de gagner en justice face à ce géant américain qu'est Ben Capital. Alors, vous avez compris, elles partent le 5 mars et d'ici là, il faut qu'elles aient des sous pour partir toutes ensemble. Alors, l'échec, c'est à AC Samsonite, et l'adresse où envoyer ces chèques, c'est 5 rue de la Mairie, 62 320 Rouvroy, R-O-U-V-R-O-Y. Je répète, AC Samsonite, 5 rue de la Mairie, 62 320 Rouvroy. La dernière fois, vous avez été parfait, vous aviez permis à un certain nombre d'entre elles de partir pour Boston, avec leur avocat qui est Fyodor Rylov, vous vous souvenez sans doute de lui, et nous soutenons là-bas, si j'y suis, soutient le combat, la lutte de ces ouvrières, les ex-salariés. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, vous entendez, à ce qui se passe dans la rue, la manif. La manif, la rue, évidemment, c'est la gauche. Voilà, à Paris, c'est République, Bastille, Nation, Merguez, Drapeau Rouge et Flonflon. C'est la gauche, évidemment. Eh ben, c'est pas toujours le cas. La droite aussi, souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, s'empare parfois du boulevard. Et on va le voir avec l'historienne Danielle Tartakovsky, qui publie un bouquin, Les droites et la rue. Danielle Tartakovsky, on la connaît depuis des années, et on avait fait il y a des années, je ne sais plus combien, au moins une dizaine d'années, un sujet sur la manif de rue. Elle a étudié ça très très précisément, ce que ça veut dire, les enjeux, les résultats, les effets, au point de vue historique, anthropologique, tout ce que vous voulez. Mais bien sûr que la manif, c'est de gauche, c'est les ouvriers, c'est les prolos qui vont dans la rue et qui ou bien parfois c'est aussi des revendications professionnelles, sectorielles, etc. Mais il y a toujours, bien sûr, eh ben pas du tout. c'est un manque de connaissances historiques, probablement. L'histoire populaire n'est pas aussi racontée qu'on ne le croit. Et puis, nous avons la mémoire courte. Or, nous dit Danielle Tartakovsky, il y a eu, si on prend notre histoire récente, depuis la fin du 19e siècle, pas mal de manifs de droite en 25, en 34, en 68, en 58. Et oui, ça fait le 30 mai 68, en 84, etc. Donc tout ça, ça fait pas mal de manifs. Qu'est-ce qui déclenche ces manifs? Et aujourd'hui, bien évidemment, la manif pour tous, qui quand même s'entête, représente une force, a une signification, bien évidemment, au-delà d'une certaine panique morale qu'on peut ressentir à travers tout cela. Il se passe quelque chose qui ne sera pas sans effet. Quels sont les effets des manifs? Parfois, il n'y en a aucun, immédiat, tout de suite, visible. Parfois, il y a des résultats immédiats, mais il y a ce fameux souterrain des choses qui existe bel et bien et qui fait ressurgir des années plus tard, oui, des revendications et parfois des modifications à notre vie politique et sociale. Voilà notre sujet du jour avec Danielle Tartakovsky, donc, autour de son bouquin « Les droites et la rue ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
C'est avec une grande tristesse et une immense colère que nous venons d'apprendre la reconduite à la frontière de la frontière Ismaili, présente sur le sol français depuis plus de 3 ans. Cette famille est très fragile. Emrula, le père, souffre de troubles psychiatriques graves. Jana, la maman, avait également des problèmes de santé. Amar, 4 ans, est un enfant brillant qui parle un français impeccable et qui adore les livres. Semir, 2 ans et demi, aime grimper partout. Nous avons à chaque rendez-vous tenté de faire comprendre à la préfecture la fragilité de cette famille et la nécessité pour ses enfants de suivre une scolarité qui s'avérait prometteuse pour Amar. La famille avait fait un recours à la cour administrative d'appel de Nancy pour faire annuler l'OQTF. Rendez-vous ce soir à 18h devant la préfecture de Belfort. Venez nombreux. Rendez-vous samedi 15 février à 15h, place des Petites Fontaines, rue Piétonne à Belfort. Fraternellement, bonne journée.
Salut Daniel, salut les MG. Je voulais réagir à l'interview que tu as faite de Chris Hedges. Il a commencé à raison par dénoncer le système carcéral américain avec ses 2,5 millions de détenus qui représentent une main-d'œuvre facilement exploitable. Je voulais faire un parallèle avec le système carcéral de France puisque concernant le travail avec les entreprises privées, les détenus sont rémunérés à la pièce dans plus de 80% des cas. Il faut savoir qu'ils sont embauchés pour des tâches répétitives comme par exemple remplir des oreillers de plumes, plastifier des bonbons ou encore emballer des produits cosmétiques. Les cadences à respecter sont en plus calculées de façon absurde, en ne prenant absolument pas en compte la fatigue accumulée sur la journée, qui fait que ces cadences sont difficilement tenables. Le sociologue Fabrice Guilbeault relevait qu'entre 2/3 et 3/4 des détenus ne parvenaient pas à suivre les cadences exigées. En plus, en termes de rémunération, ça ne fait pas lourd, puisque les détenus touchent en moyenne 359 € brut par mois. 359 € brut par mois. Et ça, ce n'est pas de l'exploitation, je n'y connais pas. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter l'excellent bouquin de Rambaud et Romère, Le travail en prison, enquête sur le business carcéral. Salut à tous, c'était Thibaut de Rouen.
Dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, il y a des pleurs et des rires aussi. Dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, narguant le malheur, il y a la vie. Salut.
Pour le début du défilé, donc les hommes devant, les femmes derrière. On essaiera de respecter la grammaticale et de ne pas faire de fautes de grammaire au travers des slogans.
Famille, télévision, travail, famille, télévision.
L'héritage de 68 et 80, il faut bannir tout ça, il faut rompre avec tout ça. Une société moderne ne peut plus être en phase avec tout ce système-là français, qui est socialo-communiste, c'est ce qui est héritier de 68. Voilà.
Vous, la libération sexuelle, c'est par exemple quelque chose qui vous fait dégoût?
Ah non, la libération sexuelle, c'est un véritable fléau. Regardez toutes ces familles. La libération sexuelle est, comme on disait, plus de 68, plus de 69. Et c'est l'autorité, et c'est la contrainte, et c'est les limites qui permettent l'épanouissement.
La jouissance sexuelle, c'est quelque chose qui...
Ah non, ça, je vois pas de quoi vous parler, je préfère qu'on change de sujet.
Respectez les passages cloutés. Respectez les passages cloutés.
Alors là, on se trouve devant des passages cloutés, c'est ça?
Oui, je pense qu'il est temps de respecter une bonne fois pour toutes les passages cloutés. Voilà, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Parce que les gens ont souvent dans une espèce de... Encore une fois, de débâcle. Je veux dire, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi si on respecte plus les passages cloutés. Donc je pense qu'il est important de remettre les points sur les i et de profiter de cette journée pour nous aussi nous exprimer dans la rue.
Ouais, ça nous faisait rigoler, mais maintenant, ça nous fait plus rigoler du tout. Les droites et la rue, Daniel Tartakovsky, c'est là-bas, si j'y suis. C'est Daniel Mermet.
Flight number 2, arriving from...
La cravate ou éventuellement le foulard. On a le mot d'ordre juste, simple, efficace, comme des gens de gauche, mais de droite.
Ouais, CAC 40, ouais, ouais, CAC 40, ouais, ouais.
La gauche est foutue, c'est la droite qui est dans la rue. Il y a quelques années, c'était en 2007, on avait fait ce reportage sur une manif organisée avec beaucoup de talent par des comédiens, qui est un petit groupe qui s'appelait Restons Vivants, et qui organisait ces manifs. Et c'était drôle, c'était du deuxième degré, on s'était beaucoup amusé avec les auditeurs, parce qu'il y a une partie d'entre eux qui s'était fait prendre au piège, on leur avait dit, il faut changer de point de vue de temps en temps, etc. Ça avait été un bon moment de franche rigolade. Et jamais on aurait pu penser à l'époque, on était en 2007, que 7 ans plus tard, on recevrait Daniel Tartakovsky pour le livre que vous sortez, Daniel, ces jours-ci, aux éditions de la Découverte, Les droites et la rue. Venant de vous, c'est un peu étonnant, parce qu'on vous connaît depuis des années, vous avez fait l'honneur de venir dans la place où j'y suis, sur la manif. Vous étudiez la manif, les manifestations de rue, depuis fort longtemps. Et on avait pu, avec vous, comprendre qu'est-ce que la manif, en quoi est-ce que la manif montre la bonne santé de la démocratie, comment, même quand la manif est violente, elle ne l'est pas toujours, c'est un moyen d'intégrer le jeu démocratique, républicain, etc. Et là, tout d'un coup, voilà que vous vous retournez complètement, vous vous retournez vers la droite pour nous dire, mais non, il y a une histoire de la manif de droite, et pas seulement à quelques moments, pas seulement par réaction, mais il y a eu bel et bien, si on prend l'histoire récente à partir de 1880, on a bel et bien toutes sortes de manifs de droite que certains d'entre nous, je ne citerai personne, ont plutôt tendance à occulter.
Il est vrai qu'en travaillant sur les manifestations depuis la victoire des Républicains dans les années 1880, j'avais bien vu que la manifestation n'était pas constitutivement de gauche, que l'espace public appartenait à tous et que nous trouvions, donc dès avant 14, dans la rue, tout aussi bien des paysans que des ouvriers, tout aussi bien des forces de droite que des forces de gauche. Et je crois que nul n'ignorait vraiment que les usages de la rue étaient des usages partagés. Mais il est vrai que lorsqu'a s'est affirmé ces mois derniers la manif pour tous, il y a eu un phénomène de très grande surprise générale, surprise devant l'ampleur du mouvement, et avec, de la part des commentateurs, le sentiment qu'il s'agissait d'une certaine anomalie, puisque la droite était dans la rue. Ce qui m'a frappé, c'est cette surprise qu'on avait déjà vue se manifester en 1984, lors de la mobilisation catholique contre la loi Savary, sur les problèmes du financement de l'école libre.
Alors qu'on avait un gouvernement de gauche.
Alors que, bien sûr, on avait un gouvernement de gauche. Donc, à chaque fois que s'affirme un grand mouvement de masse, à droite, une surprise des commentateurs qui semblent à chaque fois s'étonner de la présence des droites dans la rue. Deuxième élément d'étonnement, le fait que les acteurs eux-mêmes ne mobilisent pas cette histoire antérieure. Et pourtant, cette histoire antérieure, s'agissant des catholiques par exemple, est une histoire antérieure qui est riche de deux grandes mobilisations. Une première en 1925-26.
Cartel.
La gauche était au pouvoir, il s'agissait d'une gauche radicale, mais le cartel des gauches.
Ouais.
Et il s'agissait pour les catholiques de combattre l'extension à l'Alsace-Lorraine, aux provinces recouvrées, des lois laïques. Mmh. En 84, on n'a pas eu mobilisation mémorielle de cette première manifestation, qui pourtant s'était terminée par une victoire. Les lois laïques n'ont pas été appliquées aux provinces recouvrées, et qui, un peu indirectement, il est vrai, mais c'était quand même terminé par la chute du gouvernement radical et par le retour au pouvoir de la droite classique, même s'il n'y a pas de lien tout à fait direct entre la manifestation et le retournement, mais enfin, elle y joue une part. 84, ça se termine également par une victoire. Mitterrand retire le projet de loi en prévoyant une loi nouvelle qui ne verra pas le jour.
C'était puissant en 84, hein, c'était une
puissant,
mobilisation très importante, très organisée.
Absolument, donc en 25-26 également. Uh-huh. Ce sont des manifestations qui n'ont lieu qu'en province, mais qui en province sont beaucoup plus puissantes que les manifestations qui auront lieu sous le Front Populaire, organisées par les forces uh-huh. de Front Populaire. C'est de très puissantes manifestations. Donc très puissantes, victorieuses à chaque fois. Or les catholiques n'en ont plus la mémoire. Et je me suis un petit peu demandé pourquoi il y avait ce phénomène d'amnésie. Mmh. Ce phénomène d'amnésie, il n'est pas spécifique aux catholiques, qui pourtant auraient pu mobiliser cette histoire au total victorieuse. On l'a retrouvé lorsque Nicolas Sarkozy, au moment de la campagne électorale, appelle à un vrai 1er mai. Il y avait une référence historique qu'il aurait parfaitement pu utiliser pour légitimer cette initiative. Il a utilisé des références, mais il n'a pas utilisé la bonne. Ses conseillers avaient mal travaillé. Sous l'occupation, le général de Gaulle, en 1942, appelle à faire du 1er mai une manifestation patriotique. Manifestation patriotique où convergeront en 1942, en 1943, à la fois les éléments de la résistance communiste et de la résistance gaulliste. C'était une belle référence. Amnésie. Je n'allais pas la lui souffler quand même. Amnésie. Alors, pourquoi cette amnésie de la droite? Alors que, effectivement, la droite est descendue précocement dans la rue, certes, moins souvent qu'à gauche, mais quand elle y descend, c'est souvent avec un certain nombre d'effets assez spectaculaires et des victoires dans la filiation desquelles on pourrait s'inscrire.
Y aura-t-il une controverse sur les chiffres? Sans doute, mais tout porte à croire que les marcheurs de l'école libre se sont comptés près d'1 500 000 aujourd'hui à la Bastille.
FR3.
Immense procession qui a duré près de 10 heures de part et d'autre de la colonne et qui s'est achevée 2 heures plus tard que prévu, sans que sur aucun des 4 parcours convergents ne se soit produit le moindre manquement à la discipline librement consentie.
24 juin 1984.
Liberté, véritable leitmotiv en parole, en musique et en action. 1,5 million de Français ont passé leur dimanche à la réclamer, ou si vous préférez, à s'inquiéter pour elle.
Résistance, espérance, résistance, espérance.
Si on supprime la liberté d'enseignement, on supprime toutes les libertés dans ces cas-là.
Vous n'avez rien a priori contre les élèves de l'enseignement public?
Mais non, justement,
ah non, pas
c'est
du
pas
tout,
ça.
Justement. Pas du tout. On défend pas l'école publique.
On défend le choix de l'enseignement. On n'est pas contre l'école publique, on est pour l'école privée. Ouais.
Daniel Tartakovsky, on va reprendre un peu le point de départ de votre travail sur les manifestations, sur la rue, quand on manifeste dans la rue. Ça commence quand, cette histoire de manifestation, gauche comme droite? Ça vient de quoi? Vous parlez de procession, vous parlez de monôme. Ça commence comment, la manif?
Ça commence jamais. Je pourrais vous dire que ça commence avec l'Exode et avec l'Égire, hein, c'est-à-dire que le déplacement dans l'espace public, dans les grands textes religieux, apparaît comme...
Mais religieux, vous dites bien.
Je dis bien religieux, oui. Apparaît comme une forme de la protestation, oui. Donc je crois qu'il y a une dimension anthropologique et religieuse de cette forme de mise en mouvement pour dire ce vers quoi on tend. Donc bien évidemment, si l'on essaye de réfléchir à ceux des acteurs qui ont les plus précocement mobilisé l'espace public, les catholiques et la procession. Alors la procession bien sûr, n'est absolument pas une manifestation, qui est une mise en corps de l'Église dans l'espace public. Le problème surgissant après 1880, lorsque les républicains victorieux engagent une politique de laïcisation, qui s'achèvera en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État, et il est...
La marche devient profane.
Dans un premier temps, les républicains entendent se réapproprier l'espace public. Donc je dirais que la conquête, c'est d'abord une conquête pour empêcher l'autre d'être le maître de l'espace public, d'être le maître des sons dans l'espace public. C'est la bataille pour les cloches, et c'est aussi la bataille contre les processions.
La bataille pour les cloches, c'est-à-dire?
Qui est le maître des cloches? Qui a le droit de sonner les cloches? Les républicains veulent retirer au curé la totale maîtrise des clés, des clochers, et faire en sorte que les cloches sonnent le tocsin si nécessaire, mais non pas les heures et les messes. Et donc ça donne lieu à des batailles à la cloche-merle, dont les curés sortiront vainqueurs s'agissant des cloches, mais dont les républicains vont sortir vainqueurs s'agissant des processions. Il y a donc un phénomène de reconquête de l'espace public. Il s'agit de bouter l'Église hors de l'espace public, ce qui passe par la liberté religieuse, mais dans un espace qui est l'espace du religieux. Donc, il y a une pratique ancienne catholique, enfin ancienne, je dirais vieille comme le catholicisme, de déploiement des catholiques dans l'espace public.
Ave Maria en jean ou cravate ou bien en militaire, son nom c'est Jésus Révolution. Jésus. Il stoppe, il donne le ton, il est pop, kitsch, classique ou non, jeune ou vieux, mais son nom c'est Jésus Révolution. Mange quand il a le temps, il dort souvent ou pas souvent, rappelez-vous son nom, c'est Jésus Révolution.
Daniel Tartakovsky, on a des manifestations qui sont des manifestations professionnelles, socio-professionnelles, qu'on ne peut pas placer à droite, si ?
Alors, je ne suis pas partie d'organisations dont je déclarerais qu'elles sont par essence à droite. On a des manifestations de classe moyenne, profession, libérale, au sens des petits producteurs, pas au sens des classes moyennes salariées. On le trouve chez les paysans dans les années 30. On le trouve bien sûr avec Poujade. Poujade, c'est 50.
Oui. Nicou. C'était dans l'UDCA, les commerçants artisans.
On le retrouve avec les bonnets rouges. Ce sont des mouvements qui manifestent toujours face à des gouvernements de gauche, en sachant que c'est une gauche qui varie, mais c'est contre des gouvernements de gauche, contre la politique fiscale engagée par des gouvernements de gauche, et donc qui se manifestent sur la droite de l'échiquier politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces manifestations, donc, qui sont socio-professionnelles, effectivement, et dont l'assise est forcément plus limitée que la manif pour tous, l'assise sociale est forcément plus limitée, c'est souvent des mouvements qui sont caractérisés par une certaine violence, ou une violence certaine, une violence facilement mise en scène, je dirais, quelque peu co-construite. Il y avait eu des travaux de Patrick Champagne sur les manifestations de papier, hein, qui partaient justement d'analyse de ces manifestations d'agriculteurs dans les années 60.
Tout à fait.
Ce qu'il faut noter, c'est que ces milieux socio-professionnels qui manifestent contre des gouvernements de gauche sont des milieux qui ne disposent pas de l'arme de la grève. Et là, il y a un phénomène de dissymétrie entre le monde des salariés qui fait la grève, et la grève est une force qui peut être amené à se donner à voir en s'accompagnant de manifestations, mais la manifestation n'est jamais qu'un appendice de la grève. Ce qui crée la force d'un mouvement, c'est la grève, et surtout quand elle est générale, dans certaines circonstances de notre histoire. Les mouvements dont je parle sont des mouvements qui sont des mouvements éclatés, et qui, parce qu'ils ne disposent pas de cette arme-là, enfin c'est mon hypothèse, sont amenés à construire et à mettre en scène, enfin une dramaturgie de la violence, peut-être je préfère ça au terme de mise en scène, qui caractérise souvent leurs manifestations.
C'est ce que font les taxis actuellement,
tout à
par
fait.
Exemple.
Tout à fait, j'ai failli arriver en retard.
Décidément, donc, plusieurs projets fiscaux suscitent le mécontentement. En Bretagne, d'abord, c'est l'écotaxe qui provoque l'inquiétude et même la colère de tout le monde agricole. La mesure
TF1
doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain.
26 octobre 2013.
Et elle provoque depuis quelques jours des manifestations parfois violentes. La tension est même montée d'un cran aujourd'hui autour du portique de Pont-de-Buis dans le Finistère.
Des images apocalyptiques, dignes d'une scène de guerre. Pendant plusieurs heures, agriculteurs, transporteurs et salariés de l'agroalimentaire ont affronté les forces de l'ordre. Munis de bonnets rouges en mémoire des révoltes contre l'oppression fiscale sous Louis XIV, ils souhaitent mettre à terre le dernier portique écotaxe du Finistère.
La révolution, elle est en marche. Ça y est, maintenant, les Bretons se réveillent et le reste de la France va se réveiller aussi.
Des affrontements violents. Deux personnes ont été gravement blessées. L'une d'elles a été touchée au cou. Son pronostic vital est engagé. L'autre a perdu sa main. Plus de 1000 manifestants qui tentent par tous les moyens de repousser les CRS, plus déterminés que jamais à lutter contre l'écotaxe.
Il y en a marre, on paye, on fait que de payer, on paye partout. Il y en a marre.
Alors, une manif de droite, qui est dans toutes les mémoires, c'est la manif de février 1934.
Oui, alors je crois qu'on vient déjà d'évoquer finalement deux grandes familles de manifestations situées à droite, les manifestations catholiques, des manifestations socio-professionnelles qui se sont échelonnées dans notre histoire et dont nous avons eu des exemples récents. Et puis, un troisième type de manifestation qu'on pourrait qualifier de manifestation ligueuse, pour aller vite.
Ligue, oui.
Alors, ça émerge en 1909 avec l'Action française, qui est à la fois marqué par la présence de grands intellectuels, hein, Maurras, oui. qui diffuse
Charles Maurras,
une philosophie.
Qui inspirera De Gaulle.
Qui inspirera beaucoup de gens. Enfin, De Gaulle, c'est peut-être un peu sévère. Pétain, sans aucun problème. De Gaulle me paraît un peu sévère. Oui, je sens que nous avons un désaccord. Ce qui va caractériser l'Action française dès avant 14, et j'en viens tout de suite à 34, puisque c'est un acteur majeur du 6 février 34, c'est un acteur manifestant qui assume la violence. Mais alors celle-là, c'est pas de la dramaturgie, c'est la violence comme facteur de déstabilisation. Contre le désordre établi. La gauche au pouvoir, quelle que soit cette gauche, c'est le désordre établi, et donc il s'agit de déstabiliser le désordre établi pour amener l'ordre naturel du monde. Et là, on est bien dans la philosophie de Maurras. Et donc, ce sont dès avant 14, des groupes étudiants, hein, souvent, qui sont rompus à la violence de rue, avec une certaine efficacité. On va les retrouver parmi les acteurs majeurs du 6 février 34. Alors, le 6 février 34, c'est un ensemble d'organisations disparates.
D'anciens combattants, essentiellement.
Mais qui sont ancrés dans le monde des anciens combattants.
Voilà.
Si j'accepte l'Action française, qui est d'une autre génération, on a toute une série de ligues née dans les années 20, on a la Fédération Nationale des Combattants.
On a les Croix de Feu qui sont...
Et on a les Croix de Feu qui est une association d'anciens combattants ou de fils et filles de Croix de Feu, enfin les filles sont peu nombreuses. Ne pas imaginer le 6 février comme, en termes numériques, hein, comme la manif pour tous, c'est quelques dizaines de milliers de personnes au plus, mais c'est une manifestation...
Violente, oui.
De nuit, violente... les organisateurs ne convergent vers un même point, mais il n'y a pas de concertation entre les organisateurs. Très rapidement, personne ne maîtrise plus rien. Et d'une certaine manière, je dirais que ce qui fait la force de la manifestation, l'assise combattante, va faire aussi sa faiblesse, puisque durant la nuit, les manifestants, qui n'obéissent plus à personne, mais se scindent en deux. La masse des anciens combattants, qui dès lors qu'ils perçoivent qu'on marche contre le palais Bourbon, rebroussent chemin et vont vers l'étoile, en transformant la manifestation en manifestation symbolique. Et puis, celle des organisations Jeunesse Patriote et Action Française, qui tentent de passer le pont de la Concorde et de pénétrer dans le palais Bourbon. Alors, pour y faire quoi ? Coup d'État fasciste, les historiens nous disent aujourd'hui, enfin la majorité des historiens nous disent que ça n'était pas un coup d'État fasciste. C'est en tout cas un mouvement qui est porté par des organisations qui ont tous des objectifs stratégiques différents. Et on construit un projet de réforme de l'État visant à mettre en place un État fort. Alors, pour certains, c'est le modèle fasciste italien.
Hein, c'est ça.
On a l'Action française qui se bat pour une restauration monarchique fantasmatique à la Maurras. Et puis, on a les autres ligues qui imaginent un régime qui, là encore, n'est pas sans similitude avec la Constitution de la Ve République. C'est-à-dire, on met à balle par le régime parlementaire pour mettre en place un régime de type présidentiel. Donc, il y a une pluralité d'objectifs, mais tous ces objectifs visent à la mise en place d'un État fort. De ce point de vue-là, c'est assez conforme aux mutations qui se sont produites à une échelle plus planétaire dans les années 30 face à la crise, hein, dont chacun a construit ses solutions politiques à sa manière. Donc, des organisations politiques ayant un objectif politique et qui, pour certaines d'entre elles, n'hésitent pas à mettre en œuvre une violence contre les institutions pour tenter de parvenir à leur fin.
ORTF.
La patrie est en danger, disent les affiches.
6 février 1969.
L'Union nationale des combattants, après plusieurs journées d'hésitation, appelle finalement à la manifestation. L'extrême droite invite à l'action directe et la gauche veut organiser des contre-manifestations. Dès le 5 février, des groupes circulent dans Paris, provoquant des incidents. Le 6 février, du Châtelet à l'Étoile, la foule se rassemble dans les rues. Le rendez-vous est donné pour la soirée, mais dès 14h, la place de la Concorde est envahie. Les 2000 hommes du service d'ordre doivent être renforcés sous peine d'être débordés. La foule crie démission. Les gardes à cheval ne réussissent pas à déblayer la place. C'est la mêlée générale, alors qu'à l'Assemblée se poursuit le débat sur le vote de confiance et Daladier conserve la majorité. Mais dehors, la fièvre monte. Les manifestants s'apprêtent à franchir le pont de la Concorde. Ils marchent sur l'Assemblée. C'est alors qu'éclatent les coups de feu. Les gardes mobiles tirent, la manifestation se transforme en bataille. Triste bilan au petit matin, 20 morts, 500 blessés de part et d'autre. L'indignation populaire est à son comble.
Ensuite, il y a le Front populaire, mais ça, on va l'enjamber.
Ben oui,
puisque
forcément.
On s'occupe de la droite.
Forcément.
Alors, quand est-ce que la droite revient dans la rue ?
Mon livre se décompose en trois grandes parties et j'ai appelé ma deuxième partie « Une aussi longue absence
oui. ».
Et cette aussi longue absence va du 6 février 34 au 30 mai 68, où là on a un retour en force de la droite dans la rue avec la grande manifestation gaulliste
sur les Champs-Élysées
qui contribue à mettre un terme au mouvement de mai. J'ai forcé la note. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un point d'interrogation, si mes souvenirs sont bons, après une aussi longue absence, parce que il est vrai que le 6 février 34, qui finalement se termine mal, et pour les droites radicales et pour la droite tout court, puisque dans le temps court, cette manifestation permet le retour au pouvoir de la droite classique, certes défaite de la gauche, à laquelle Daladier contribue très largement en donnant sa démission, et donc on pourrait comparer avec ce qui s'est passé ces derniers jours après la manif pour tous. Il est clair que quand un gouvernement satisfait les objectifs des manifestants, ça permet aux manifestants de penser que la lutte paie et que le pouvoir était bien dans la rue. Donc la démission de Daladier, évidemment, paraît créditer les manifestants d'une victoire, mais cette victoire permet le retour au pouvoir de Daladier, et pour ceux qui se qualifient eux-mêmes de révolutionnaires de droite, c'est une trahison. Pour la droite elle-même, qui certes revient au pouvoir, ça n'est pas une victoire de longue durée, puisque l'effet pervers au regard de la droite de cette manifestation, c'est quand même la construction du processus qui permettra au Front populaire de l'emporter, avec les effets qu'on sait sur la droite. Donc cette manifestation est une manifestation dont la mémoire est très difficile à porter pour les différentes composantes de la droite. C'est assez inquiétant qu'on ait vu ces jours-ci les organisations d'extrême droite se réapproprier cette mémoire, parce que c'était une mémoire qui avait... on était dans l'illégitimité.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne colère. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai à preuve par quatre. S'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste.
On continue avec Daniel Tartakovsky, Les droites et la rue, histoire d'une ambivalence de 1880 à nos jours. Alors, 30 mai 1968, là c'est effectivement...
Le pouvoir est dans la rue.
Le pouvoir. Le pouvoir est dans la rue. Mais là c'est une manif de réaction, là, on peut tout à fait employer ce terme-là. Il y a tout ce mouvement étudiant et ouvrier de 1968, les plus grandes grèves de l'histoire sociale, etc. Et là, il y a une réaction.
Oui,
c'est pas eux qui ont commencé.
Ah oui, d'accord. C'est pas eux qui ont commencé. C'est pas moi, monsieur. C'est pas eux qui ont commencé. Alors, je prends le terme réaction en ce sens, mais il me semble que cette manifestation participe de ce que j'ai appelé la levée en masse, calmie. C'est une manifestation à l'appel des barons du gaullisme, à laquelle De Gaulle se résout tardivement. C'est pas dans ça que ce type de manifestation est totalement antinomique avec sa culture. Il s'est toujours gardé de s'appuyer sur ce type de manifestation, c'est-à-dire rassemblement autour de sa personne, mais pas des manifestations. Manifestation de souveraineté, ouverte par les ministres, dans l'espace de la souveraineté, les Champs-Élysées, qui est un rejeu extrêmement bien fait d'août 44. Donc c'est la libération, c'est
voilà, le libérateur. Voilà, on rejoue la libération.
On rejoue la libération, mais de la même manière que les grèves ont été un rejeu de 36 et que les barricades ont été un rejeu du 1er 19e
siècle.
Ah
oui, c'est ça.
Tout le monde a beaucoup rejoué en 68.
Absolument.
Alors, cette manifestation-là, on pourrait l'inscrire... Enfin, je crois, dans les années 20, les différentes familles de droite qui ont été amenées à manifester ont toutes mis en scène leurs manifestations en se réclamant de ce que j'ai appelé une culture nationale patriotique. En fait, pourquoi j'ai parlé d'ambivalence dans mon titre ? Parce que les droites, dans leur diversité, se donnent comme des forces d'ordre. Mmh. Et quand elles descendent dans la rue, c'est pour combattre le désordre établi au nom d'un ordre dont elles seraient porteurs.
C'est ça, et celle du 30 mai, c'est vraiment le retour à la normale.
Ce qui leur donne une légitimité. Et dans les années 20, c'est passé par la volonté de calquer au maximum les manifestations sur les fêtes nationales, en s'inscrivant souvent dans les espaces et dans les temps de la fête nationale, le monument aux morts. Hein, Et d'une certaine manière, la manif du 30 mai, c'est un rejeu de ce type de manifestation-là, via la libération. Donc effectivement, je la mets à part, elle appartient à aucune de mes trois familles.
Soudain, coup de tonnerre, le jeudi 30 mai, le général de Gaulle s'adresse par la radio au pays, à 4h de l'après-midi.
Je ne retirerai pas.
France 2.
Je ne changerai pas le Premier ministre.
15 novembre 1986.
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La République n'abdiquera pas.
L'allocution présidentielle a atteint son but. Des centaines de milliers de Parisiens, avec à leur tête la vieille et fidèle garde du général, André Malraux, Michel Debré, Maurice Schumann, Jacques Chaban-Delmas ou Roger Frey, défilent en acclamant De Gaulle, de la Concorde à l'Étoile. Deux heures après, les dépôts d'essence rouvrent, les stations-service aussi. La révolte de mai est terminée.
Alors, évidemment que le chapitre qu'on attend, c'est le dernier, c'est le chapitre 8. On se précipite dessus tout de suite, parce que ça, c'est ce qui est en train de se passer.
Je me suis arrêté au milieu du guet, parce qu'au moment où nous mettions sur presse, les Bolets Rouges ont surgi sur la scène publique, et donc j'ai daté.
Là, vous êtes dans l'histoire immédiate. Il y a de l'histoire, il y a 170 pages d'histoire, ce que vous venez d'évoquer, et puis là, vous faites de l'histoire immédiate, vous faites quasiment du journalisme.
Non, je ne fais pas du journalisme, parce que... j'ai le plus profond respect pour ce métier, mais je crois que... Je parle sérieusement. Mon approche diffère dans la mesure où j'ai essayé de voir comment le très contemporain, il y a effectivement une dimension qui diffère peu de ce qu'on a pu écrire ailleurs, mais comment il y avait une circulation du temps long dans notre contemporain.
Alors comment vous avez appréhendé ces manifs ? Vous avez été surprise de la manif
comme
pour
tout
tous.
Le monde.
Oui, oui. Vous n'attendiez pas. Personne. Pareil. Enfin... Vous avez observé, vous avez mesuré. Et quelles sont vos observations là-dessus ? Quelles sont les analyses que vous faites ?
Mes observations, c'est d'une part le fait qu'indéniablement on a été confronté à ce qui s'est imposé comme un mouvement social d'ampleur, que c'est tout à fait intéressant de voir comment ce mouvement social d'ampleur, qu'on ne peut guère comparer aux deux mouvements catholiques déjà évoqués, a mobilisé une France catholique. Je crois qu'on peut dire, au vu de ce que les organisateurs appellent la saison 2, une France maurassienne. Je pense une France qui se réclame d'un pays réel auquel un pays légal serait venu se surimposer de façon quelque peu artificielle. Et cette revendication d'une parole portée au nom du pays légal lui donne une légitimité qui lui serait confirmée par cet ordre naturel du monde. Enfin, je crois qu'il y a une comparaison qu'on peut faire entre gauche et droite. Par gauche, j'entends toutes les composantes qui sont issues du mouvement ouvrier à gauche, donc gauche ainsi comprise, il naît de très puissantes manifestations de masse qu'à la condition que les syndicats en soient partenaires et quelquefois même initiateurs, qu'on pense au 12 février 34, manifestation de défense de la République contre le fascisme, on est bien dans du politique au plus haut chef, et c'est la CGT qui en a l'initiative. Et il faut le mouvement syndical pour qu'une manifestation en France puisse avoir une très grande ampleur. À droite, je crois que ce rôle est un rôle qui est dévolu aux catholiques. Et n'oublions quand même jamais que dans ce pays, le rapport des forces électorales entre droite-gauche, c'est quand même toujours peu ou prou 50-50, hein, et que les déplacements de sièges se font sur de très faibles déplacements de voix. Cette Française-là, on l'avait oubliée, elle ne prenait pas la parole, ou elle ne la prenait pas sous ces formes-là, elle est là, et elle s'exprime fortement. Et, c'est
et elle est très dynamique.
Alors, il y a une différence entre la place du mouvement syndical et la place des catholiques au regard de l'action de masse, dans la mesure où, de par l'histoire française, lorsque les syndicats ont été amenés jusqu'à des temps proches à occuper une place dans le dispositif politique, c'était dans des phases, je pense au 12 février 1934, où il y avait un phénomène de difficulté ou d'incapacité des partis politiques de gauche à construire une solution et où les syndicats s'affirmaient comme élément moteur, mais dans une articulation avec le politique. Il y a des formes de lien entre le mouvement syndical et le politique. On constate que nos catholiques se sont mobilisés par deux fois dans des manifestations qui ne concernaient que les catholiques, l'école libre. La manif pour tous, évidemment, c'est plus large, ça se veut même universel, puisque ça se donne pour la défense d'un ordre du monde menacé par d'aucuns. Il n'en demeure pas moins que, à ce jour, les catholiques manifestants dans ces circonstances se sont toujours gardés d'un affrontement direct avec le pouvoir en place. Ils ont combattu des lois. En 25-26, pardonnez-moi, mais ça commence en 24 en fait, il est très intéressant de voir que ce sont de très puissantes manifestations, mais qui ne viennent pas à Paris. Ils n'écrivent nulle part qu'ils n'iront pas à Paris, mais à l'évidence, ils choisissent de ne pas manifester dans un lieu.
Oui, mais en 25-26, l'Église en France était beaucoup plus puissante aujourd'hui, avec des pratiques.
Raison de plus, ils auraient pu décider un affrontement direct et dire ils vont pas à Paris parce qu'ils ont d'autres moyens de. En 84, il y a la volonté affirmée, cette fois-ci explicite, de ne pas manifester le jour des débats parlementaires pour ne pas donner le sentiment qu'on pèse directement sur la loi. Donc, la manif pour tous, c'est évidemment très intéressant. Il y a eu des tentatives d'OPA de l'UMP, et bien évidemment, il y avait des parlementaires de l'UMP qui étaient là. Mais on a bien vu, d'abord, une prise de distance des organisateurs face à la présence des politiques. Et à partir du moment où la loi est votée, une certaine difficulté de l'UMP à gérer ce mouvement, et surtout dans la dernière version.
L'année dernière, il se mobilisait contre le mariage pour tous.
TF1.
Et c'est maintenant pour défendre le modèle familial traditionnel qu'ils veulent se faire entendre.
On veut des bébés, pas du préfabriqué.
2 février 2014.
Ils s'opposent à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels et à la gestation pour autrui. Deux éléments qui pourtant ne sont dans aucun projet législatif.
Nous venons dire, sur ce sujet-là notamment, de manière préventive, en amont, en effet très en amont, non, on ne peut pas priver des enfants de père ou de mère, quoi qu'il arrive, et nous devons protéger les familles.
En tête de cortège, une poignée d'élus du Front National et de l'UMP qui dénoncent la politique familiphobe du gouvernement.
Panique morale, des manifs préventives, une simple fièvre, une maladie profonde. Quelles seront les suites et les effets de ce mouvement? C'est à suivre. La gauche est foutue, c'est la droite qui est dans la rue. Merci à Daniel Tartakovsky pour cet entretien. Les droites et la rue, c'est le titre de son bouquin. Histoire d'une ambivalence de 1880 à nos jours. C'est à la découverte. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter également cette émission sur le site là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission de là-bas si j'y suis. Vous trouverez toutes les informations donc sur ces pages. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Gaël Braouzek. L'émission est réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Young et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis, vous le savez sans doute, à Brest, c'est le festival Longueur d'onde qui a commencé, qui est du 11 au 16 février. Il y a tout un tas de rencontres autour de la radio, autour du son. C'est tout à fait passionnant et nous y serons, enfin plutôt j'y serai, avec Olivia Gesbert, samedi soir à 20h30, donc samedi soir, je vous donne rendez-vous au Théâtre du Quartz à Brest. On se retrouve lundi à 15h pour la basse. J'y suis. On se retrouve pas demain. Non, on se retrouve lundi à 15h pour la basse. J'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour.
France Inter.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici?
Bah, je suis photographe. On est en train de finaliser l'exposition, on met les légendes.
Voilà. Et ce sont vos photos qui sont sur les crochets au mur?
Exactement, c'est mes photos.
Bonjour à tous et bienvenue à la galerie In Between. C'est chez vous?
C'est pas la galerie, c'est pas chez moi, c'est la galerie de Luigi Clavaro. Elle vient d'ouvrir en juin dernier, donc au cœur du Marais, à Paris, aux 3 rue Saint-Anastase.
Voilà, vous faites bien la pub, vous. Pourquoi In Between? C'est votre travail. Et pourquoi In Between? Vous êtes entre les deux quoi?
C'est une galerie qui est un peu à part. Ici, il y a énormément de galeries. On est en plein cœur du Marais avec toutes les galeries. Vous allez dire, on n'est pas loin de Perrotin, mais c'est une galerie qui est un peu dans la marge.
Mais justement, Franck, il est en marge de quelque chose, lui?
Alors, c'est à lui de me dire s'il est en marge du système, peut-être.
Je pense pas être en marge complètement du système, mais là, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui a été déjà exposé pas mal de fois à travers le monde. Et là, je suis content de le présenter en galerie.
Est-ce que c'est une forme de reconnaissance artistique pour vous?
Oui. Ouais.
Mais alors, votre nom, c'est Franck Vogel ou Vogel?
Vogel. Ouais. C'est alsacien. Je suis d'Alsace, voilà.
Et alors, pourquoi vous vous intéressez au Rajasthan?
Alors, en fait, c'est principalement, c'est pas le Rajasthan, c'est le peuple. Ce peuple s'appelle les Bishnoi. Donc, c'est les premiers écolos au monde. C'est un peuple que j'ai découvert un peu par hasard. C'est un ami qui m'en a parlé fin 2006. Et donc j'y suis allé début 2007. J'avais un seul contact, il n'y avait rien sur internet sur eux à l'époque. Donc j'ai creusé, enfin il y avait un contact et c'était Sunil Bishnoi que je trouve sur internet. Je me dis bon, il a peut-être un lien, il fait des sites internet. Donc j'envoie un email à cette personne. Je dis, est-ce que vous êtes en lien avec les Bishnoi? Vous êtes vous-même un Bishnoi? Enfin, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que vous êtes prêt à mourir pour sauver les arbres et les animaux sauvages? Enfin, bon. Et il me dit oui, je suis partie de la communauté, venez chez moi, je vous invite, venez chez moi. Donc j'y vais. Là, je ne savais pas combien ils étaient. Je pensais qu'ils étaient une petite communauté, peut-être 500, 1000 personnes, je ne savais pas. Donc j'arrive sur place, dans l'Ariana, à côté du Rajasthan, parce qu'il y a aussi une petite poche de Bishnoi dans cette zone-là. Donc je vais chez lui, il me reçoit, et là, ce qui était rigolo, c'est qu'en discutant, il me dit « t'as quel âge ?» Enfin, on se présente un peu. Lui, il avait 23 ans, ou 22, et moi, j'avais 29 ans. Et en fait, il m'a dit « ah, bah, c'est rigolo !» Je lui dis « mais pour qu'est-ce qui est rigolo ?»« Bah, tu sais que Bishnoi, ça signifie 29 ?» On suit les 29 règles du prophète. Donc moi, je m'appelle Sunil Bishnoi, Sunil 29, quoi. Et bon, c'est un clin d'œil, donc il me dit, bon, bah, allez, t'es Bishnoi, alors. On va te mettre l'amulette du prophète. Donc il m'a mis l'amulette autour du cou, il m'a dit, bon, c'est rigolo, voilà. Donc j'avais ça autour du cou. On sort de la ville, il me présente à ses grands-parents, ses parents. Donc j'ai vu qu'il y avait des gazelles qui se baladaient, enfin, voilà. Je me dis, bon, OK. Et il me dit, dans quelques jours, il y a un grand festival, un grand pèlerinage. Tu veux venir avec nous? Je lui dis, ben, oui. Bien sûr. Donc j'y vais. Et là, le choc, quoi. Je dis, mais là, tous ces gens-là, autour, là, c'est tous des Bishnoi? Je dis, pas bien sûr. Je dis, mais il y a combien de gens, là? Oh, environ 400, 500 000. Je dis, quoi? Ah oui. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience que, ben, en fait, c'était pas juste 1000 personnes. Enfin, c'est ça, le plus gros choc pour moi. C'est le nombre de personnes, quoi, qui étaient là, de cette communauté. Et
que personne ne connaissait, alors qu'ils sont quand même 500 000.
Ouais, exactement.
Et alors, quelle est la capitale des Bishnoi?
Il n'y a pas de capitale. Enfin, le centre névralgique, c'est Mukam. C'est Mukam, c'est le centre, c'est là où le prophète leur a édicté les 29 règles. Voilà.
Mais alors, si un habitant du Rajasthan va à Mukam, qu'est-ce qu'il a à faire pour devenir Bishnoi?
Alors, c'est très simple. Il a juste à suivre n'importe qui. Vous pouvez devenir Bishnoi si vous voulez, si vous suivez les 29 règles. D'accord. Et je peux vous les... où est-ce qu'elle les a mis? Attendez, on va trouver les règles.
Ah oui. Comme ça, je vérifie avant de m'engager si je peux faire toutes les règles.
On a imprimé les règles. Oui. Vous voyez, première, c'est le congé maternité. Deuxième, en fait, c'est vraiment, c'est l'ordre. Hein.
Ouais. Après, trois, tôt chaque matin, prendre un bain.
Il faut, et ça, pareil, et, enfin, c'est vraiment étonnant parce que...
Y a pas beaucoup... une douche
ou alors, c'est... Non, ils n'ont pas de douche, hein. Et, mais ils se lavent avec juste un petit seau. Ah, donc, oui, pas utiliser beaucoup d'eau. Ah,
oui.
Et ils sont obligés de se laver donc, le matin, d'être propres, de laver leurs vêtements aussi. Donc, les hommes doivent être en blanc pour que le voisin voit quand il est sale. En gros, s'il lave pas ses habits tous les jours, ouais, avant le lever du soleil, voilà. Tout est, il doit filtrer l'eau pour éviter de manger des insectes. Bon, ça c'est lié, on ne tue pas d'animaux, mais on ne mange pas de viande, et voilà. C'est...
Ne pas consommer ou cultiver du cannabis, ne pas boire de boissons alcoolisées. Dites donc, la joie qu'il y a du vin sur la table, hein. C'est pas bichenoï, ça.
C'est pas très bichenoï, non, c'est vrai.
J'ai mis un contrôle...
contrôle des bichenoïs.
Anne-Charlotte, il peut y avoir un problème...
Avec les
bichenoïs ? Oui, est-ce que vous servez de l'alcool ?
Mais il n'y aura pas de bichenoïs ce soir ? Est-ce qu'il y aura un bichenoïs pour témoigner de cette situation ?
Non, il n'y aura pas de bichenoïs, mais c'est la seule exception qu'on a ce soir. Tout le reste est végétarien. Ça a été avec le galeriste Luigi, on a décidé de faire 100% végétarien. Il n'y aura pas de saucisson, il y aura, voilà, la seule... Le seul écart, c'est le vin.
Bon, si on veut en savoir plus, Franck Fogel, et puis c'est pas compliqué, il y a votre site francfogel.com, et puis il y a la galerie In Between à Paris, 3 rue Saint-Anastase.
Un taux de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Bonjour.
Bonjour.
C'est pour un bouquet ?
Oui, bien sûr. C'est pour offrir ?
Oui, c'est pour moi.
Ah.
Mais c'est une surprise, c'est pour la Saint-Valentin.
Bien, et quel genre de bouquet ?
Je connais pas bien mes goûts, mais je crois que j'aime les roses rouges.
C'est classique.
Ah bon ? Et vous pensez quand même que ça va me plaire ?
Pour tous ceux qui s'aiment, ce vendredi, Super Loto de la Saint-Valentin. 14 millions d'euros minimum à gagner, à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter présente l'année Rameau. En 2014, fêtons Jean-Philippe Rameau, l'un des plus grands compositeurs français de la période baroque, pour le 250e anniversaire de sa disparition. Participez aux grands événements de l'année Rameau en Ile-de-France. Le 13 février, à l'Opéra Royal du Château de Versailles, recréation des fêtes de l'hymen et de l'amour. Un opéra jamais rejoué depuis 1747. Toutes les informations sur l'année Rameau, coordonnées par le Centre de musique baroque de Versailles, sur rameau2014.fr. Retrouvez l'année Rameau dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour et tout de suite, direction la Russie pour l'épreuve individuelle de biathlon sur 20 km. On est proche de la fin de cette épreuve. Martin Fourcade et Béatrix, ça se passe plutôt bien pour eux, c'est ça Julien Laurent, podium en vue, hein. On pourrait dire même pour Martin.
Podium et même médaille d'or olympique peut-être pour Martin Fourcade. Attention quand même à l'Allemand Lesser qui a fait un sans faute lui sur les 20 tirs à la carabine. Martin Fourcade en a raté une, deux, six, mais pour l'instant, c'est jusqu'à il y a quelques petits instants, c'était lui le leader du classement provisoire de ce 20 km individuel, sorte de contre-la-montre individuel. Il va falloir attendre le résultat de tous ses adversaires, mais ça semble bien parti pour au moins décrocher une nouvelle médaille olympique pour le Catalan de 25 ans, sacré donc ici à Sochi sur l'épreuve de poursuite lundi. Jean-Guillaume Béatrix Sacré, qui avait pris le bronze, lui, sur l'épreuve de poursuite lundi, a cru pendant longtemps pouvoir décrocher l'or olympique sur cette épreuve du 20 km individuel aujourd'hui. Finalement, il a raté également un tir et pour l'instant, il est cinquième du classement provisoire. Il n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée. En tous les cas, les Français sont très bien placés pour l'instant. Martin Fourcade, deuxième provisoire pour l'instant.
Merci Julien Laurent, en direct des Jeux Olympiques de Sochi, donc un espoir de médaille plus que quasiment sûr pour Martin Fourcade, le Français. Les chauffeurs de taxi mettent fin à leur mouvement de grève. Ils ont obtenu de Matignon cet après-midi un gel des immatriculations des voitures de tourisme avec chauffeurs dont ils jugeaient la concurrence déloyale. Mais attention, le gel ne vaut que jusqu'à la fin de la médiation lancée par le gouvernement. La police antiterroriste britannique enquête actuellement sur 6 colis suspects. Ils ont été adressés à des bureaux de l'armée dans plusieurs villes de Grande-Bretagne, dont Brighton et Oxford. Selon la chaîne de télé anglaise Sky News, il s'agissait de petits engins explosifs en état de fonctionner. Besançon annonce aujourd'hui le retrait de 2000 clés USB éducatives. La municipalité a en effet découvert que certaines de ces clés renvoyaient vers des sites pornographiques et vers un jeu de guerre ultra-violent. En fait, dans le cadre d'un dispositif mettant à disposition des élèves de CE2 des ordinateurs, des clés USB avaient été distribuées aux enfants et à l'intérieur, il y avait des logiciels éducatifs dispositifs ainsi que des liens sur lesquels on pouvait cliquer pour aller vers des sites de jeux. Or, les noms de domaine de deux sites ont été rachetés, rien d'illégal là-dedans, mais les sociétés peu scrupuleuses les utilisent en fait pour faire la promotion de sites adultes. C'est un père de famille qui a donné l'alerte. Il continue de pleuvoir en France et une nouvelle tempête est annoncée pour ce week-end. Et pendant ce temps à Washington, eh bien, il neige. Écoles et administrations sont fermées aujourd'hui. La circulation des bus est suspendue car par endroits, la circulation est quasiment impraticable. Selon les médias américains, 800 000 foyers sont privés d'électricité dans les États du sud-est des États-Unis. De nombreux vols ont été annulés, mais pas de problème pour François Hollande qui est parti lui de Californie et qui est sur le chemin du retour. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
En 2014,
connaissez tous le crochet radiophonique.
On a les moyens de vous faire chanter le radio crochet de France Inter en partenariat avec la SACEM et la FNAC.
5000 auteurs, compositeurs, interprètes se sont portés candidats.
54 ont été auditionnés.
24 ont été retenus.
Ok, je suis prêt.
Vivez la suite de la compétition sur l'antenne de France Inter tous les samedis à 21h avec Vali et Didier Varro.
Chaque semaine, 4 artistes à découvrir en live sur la scène du studio 106 de la Maison de la Radio.
On est sur France Inter.
Je pense que tout le monde aura compris ce soir, je suis vraiment le favori.
Et votez pour votre artiste préféré.
Qui allez-vous faire chanter ?
Sur franceinter.fr.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous ce soir à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir de recevoir Béatrice Thirier. Bonjour Béatrice.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Alors qu'est-ce qu'on dit, compositeur ou compositrice ?
Alors je dis compositrice. Mais j'avoue que enfant, puisque j'ai commencé comme beaucoup de musiciens classiques, la musique petite, je disais compositeur parce qu'en fait, je n'avais que des images d'hommes en face de moi. Voilà, j'avais que des visages de messieurs. Et puis le temps faisant, je me suis exprimée moi. Et puis j'ai rencontré les visages des femmes qui composent de la musique depuis le Moyen-Âge et je suis devenue encore plus compositrice.
Et pianiste aussi.
Pianiste,
il n'y a pas de problème, il y a un seul mot. Voilà.
Musicienne.
Bon, je rappelle, oui, c'est encore le plus important, que c'est la deuxième journée mondiale de la radio, c'est l'UNESCO qui organisait ça, et le groupe Radio France s'occupe de la parité devant les micros, bien sûr. Alors, je suis content de vous retrouver, parce que vous êtes déjà venu hors de cet événement, bien sûr, il y a 20 ans, et ça a causé quelque chose d'assez heureux, ça arrive parfois, et c'est pour ça que je considère que vous êtes la mascotte de cette émission. En plus, c'est la Sainte Béatrice aujourd'hui. Alors, ça tombe bien, c'est vraiment à vous qu'il fallait, absolument. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, quand vous êtes arrivée ?
Je me souviens, il y a 20 ans, c'était pas la Sainte Béatrice, mais j'ai eu beaucoup de chance en venant vous rencontrer avec la musique d'un film qui s'appelait Les gens d'en face. Le réalisateur était Jesús Garay. Vous m'avez invité, et puis on a fait passer un peu de la musique. Et de l'autre côté des ondes, à son bureau, Pierre Trividic, le scénariste de petits arrangements avec les morts finissait avec Pascal Ferrand, c'est-à-dire que Pascal Ferrand finissait de tourner son film. Oui. Et ils m'ont appelé et c'est comme ça que j'ai rencontré Pascal Ferrand, qui est une grande réalisatrice avec qui je travaille toujours. Elle va bientôt présenter son prochain film, Bird People. Et c'est une rencontre extrêmement importante pour moi, pour ma musique. Et j'espère que pour elle aussi, pour son cinéma. Et c'était il y a 20 ans.
Et voilà, grâce à France Inter. Ah, on ne le dira jamais assez, le service public, ça peut servir parfois.
Bien
voilà.
Sûr.
Mais on l'espère très souvent même. Voici la musique du film de Lady Chatterley. Donc l'auteur c'est Pascal Ferrand et c'est vous-même Béatrice Thirier qui l'avez composé.